Finalement, je suis comme les gens de mon monde. Côté pile, le gentil. Côté face, la bête immonde. Je vis comme si j'avais été enfant.
Je vis comme si j'avais été enfant. C'est une phrase qui résonne, quoi. C'est quelque chose de... C'est fort. C'est très fort.
Merci, c'est gentil.
C'est fort et on se demande si c'est véritablement autobiographique, quoi. C'est genre de dédicace aux parents. Ça, voilà, ça fout
les questions. Je me suis posé un peu la question, savoir comment allaient réagir mes vieux là-dessus.
Ouais. Et tu as eu une réponse, tu as eu une réaction?
Bon, là, on a bien discuté.
Ouais.
Non, mais je règle pas mes comptes avec eux, hein, parce que je parle de ce qu'il y a de bien dans l'écriture, en tout cas, c'est le côté... Des fois je dis je mais c'est lui, des fois je dis moi mais c'est elle, des fois je dis elle mais c'est moi. Voilà, donc il y a une part autobiographique toujours de toute façon.
Oui.
Parce qu'il faut parler d'un truc qui. Mais bon voilà, moi je parle de ça parce que je vis comme si j'avais été enfant, c'est un peu ce que j'ai un peu ressenti ou je peux ressentir de temps en temps. Voilà quoi.
On va écouter Same Old Thing.
Oui.
That don't mean the words we speak, the sounds we make mean anything and anyone. ID takes root. If it works for me, it works for you. La 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 la.
Voilà, ça qui est amusant, c'est cette espèce de rythmique qui est coupée au rasoir au début, qui est très très saillante, et puis ensuite ouais. le refrain libérateur, j'ai envie de dire la 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 la, c'est le genre de truc en live ça va dépoter.
Ouais, en live ça arrive d'être pas mal du tout. Après c'est une chanson qui est un petit peu cynique aussi parce que c'est une chanson qui parle de, on est une époque de tout instantané où tout va très vite et les gens, on n'a jamais été aussi au top soi-disant de la communication, mais que en fait, Same Old Thing, ça parle du fait que les gens se parlent beaucoup, mais ne s'écoutent pas.
Oui. Tu disais, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris.
Si, ça parle du fait que...
si, j'ai compris. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, oui. D'ailleurs, j'en reprendrai bien à midi, si ça te fait rien.
D'accord. Hein? Ça marche.
Voilà, ça c'est le genre de truc, voilà, c'est un peu bateau, c'est un peu casse-gueule de partir sur un sujet comme ça. C'est vrai qu'on a tous en tête des images de jeunes comme ça qui sont en train de textoter par paquet de 10 et au lieu de se parler entre eux ou de jouer, voilà, ils discutent avec des gens qui sont loin.
On se fait tous avoir avec ça parce que moi je suis toujours pendu avec mon téléphone et ces choses-là. Donc là c'était vraiment l'image de, le refrain peut paraître bateau parce que ça fait la 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 la, mais l'image qui nous est venue quand on a fait cette chanson, c'est, tu sais, quand tu parles à un gamin qui veut pas t'écouter, qui met ses doigts dans les oreilles et qui fait la 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 la.
Oui.
C'était ça l'image du début de la chanson.
D'accord.
Donc, tout simplement. Parle de ça en tout cas.
Il y a Spoonfed, on en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'à chaque fois, il y a le rôle de l'harmonica qui est vraiment important dans les intros. Il n'intervient pas forcément à la toute première seconde, mais c'est lui qui démarre tout le côté mélodique en fait du titre.
Ouais, bah là, il apporte ce truc un peu. Moi, j'aime bien parce que ça donne. Pareil, si je te donne une idée de base, c'est qu'on avait envie que l'harmo ait un thème. La chanson est assez dure, le texte est assez virulent sur les gros médias en général et la télé en général.
Ouais.
On n'est pas vraiment pas fan de ça. Et ça parle de on avait envie que l'armo sonne un peu comme un jingle du 13h, quoi, tu sais.
Ah, d'accord, ouais.
Moi,
Et c'est marrant ce riff avec une note qui sort de la pinta, qui n'a rien à voir, et puis ça retombe sur ses pieds, quoi. C'est blues, quoi.
Bah c'est, là, c'est très blues, ouais. Ah. Moi, je trouve que c'est un côté un peu. Junior Kimbrough ou Errol Burnside.
Ouais.
Ce truc un peu boogie, un peu entêtant, un peu trance, là. Moi, je suis un gros friand de cette musique-là, et je trouve qu'il y a un côté un peu ça. Je pense que ce morceau, on aurait pu même presque mettre un mec qui rappait dessus.
Oui, pourquoi pas, ouais.
C'est presque hip-hop.
Il y a un autre truc qui n'a rien à voir et qui est un hommage forcément à Ray Charles, Georgie on my mind. On l'a écouté plusieurs fois déjà dans l'émission. On va se refaire l'intro si tu veux bien, Matt.
Ouais.
Georgia, a song of you, just an old sweet song, Georgia on my mind.
Georgia on my mind, voilà. Pourquoi reprendre ce titre, Matt? Ça fait des années que tu le fais sur scène, déjà, non?
Bah, ça fait depuis le début de l'aventure de Mountain Man qu'il y a un morceau qui a pris place dans notre set, et bah, parce que le morceau il est déjà juste magnifique et on a, alors j'ai la pareil toute proportion gardée, hein, mais on a presque l'impression que c'est un titre qui est devenu qui fait partie de notre répertoire,
presque
un morceau à nous, et que les gens viennent en concert souvent au bout de trois morceaux en live, même si t'as 600 personnes, t'as toujours quelqu'un qui attend, qui est dans la salle, qui te dit « Hey, Georgia !» les gens viennent écouter Georgia, parce que voilà, notre version, on a voulu la mettre sur l'album, parce que je pense que c'était le moment, on l'avait jamais fait. On avait mis sur l'album live avant une version qui avait été enregistrée à Coutances, justement, le soir avec Tommy Castro.
Ouais.
Mais c'était un album, c'était une sortie de console, c'était un peu plus rose. Là, on avait envie de le mettre sur disque et essayer de l'enregistrer de la même manière dont on la joue sur scène.
Bah, vachement de retenue et puis à tempo hyper ralenti, à 60, un truc comme ça, aux
70. J'en sais rien, je sais pas, le tempo, en tout cas, c'est lent, ouais.
Ouais.
C'est lent.
On poursuit avec cette écoute de l'album Against the Wind avec Heading Off Again.
Oui.
Voilà, avec un truc qui démarre en arpège tout tranquillement. On se croirait au coin du feu, c'est sur la route de Memphis, ça, non?
Alors, c'est pas la route de Memphis, là c'était. J'ai écrit cette chanson, on était à Zagreb, en Croatie.
Ah, c'est pas tout à fait le même point, ouais. C'est pas le même climat.
Un peu plus à l'est.
Oui.
Alors, on était sur un festival à Zagreb, et la veille de rentrée, moi j'étais dans ma chambre d'hôtel, et il y avait une espèce de sensation un peu bizarre. J'étais super bien loin de chez moi.
Ouais.
Tout en étant super bien de penser que le lendemain je rentrais chez moi.
Ouais.
Donc c'est une chanson qui parle de la route, hein, comme plein de gens ont fait, parce que nous on a des vies quand même, on a des vies de routards, on est tout le temps sur la route. Ça parle du fait que tu peux être loin de chez toi et bien, et puis t'es content de rentrer, donc cette espèce d'ambivalence. Ça a été fait à Zagreb dans une chambre d'hôtel.
On est ensemble avec Matt Guillou des Mountain Men. On écoute cet album Against the Wind. Et puis, on est bien en direct de aller sur la route de Nevers, entre Grenoble et Nevers. Et puis, on aime bien penser que les Mountain Men se produisent un petit peu partout en France. En tout cas, si vous n'avez jamais vu, je m'adresse aux auditeurs qui ne connaissent pas Mountain Men en live. Allez-y, quoi, putain. Voilà. Il faut voir Mountain Men en live, pas que acheter les albums. On continue avec 13, avec 13.
Oui.
Ça démarre comme une boîte à musique d'enfant.
Ouais.
Hein?
Oui, là, la chanson, pareil, le texte est assez difficile. Ça parle de... En fait, on s'est mis à la place d'un gamin de 13 ans un jour justement où on était à l'hôtel avec Yann, je sais plus exactement où c'était, on était dans... Il y avait des, tu sais, ils ont la fâcheuse tendance de te mettre les infos le matin au petit déjeuner dans les hôtels.
Oui.
Et il y avait un truc sur les enfants soldats ou je sais pas quoi.
D'accord.
En Syrie ou je ne sais plus où. Et en fait, on essaie de se mettre à la place d'un gamin de 13 ans à qui on donne une arme et qui... Bah ouais, tu... C'est compliqué. Quand t'as connu que ça et qu'on t'imbrique ça dans la tête... Il y a un truc malsain et un truc compliqué, donc ça parle de cet enfant qui est là-dedans et qui a des flashs qui se rappelle de l'amour de sa mère ou de sa sœur ou des gens de sa famille.
Et qui se raccroche à ce qui lui
qui
paraît
se raccroche
tout
à
dans
ça,
sa
et
vie,
puis en même temps, il y a quand même la réalité qui est là et qui fait faire des choses. En fait.
Ouais.
C'est un peu d'actualité quand même, mais bon, ça arrive dans le monde entier, c'est un peu difficile tout ce truc-là.
Alors après, dans la tracklist, il y a la nouvelle tare qu'on a écouté tout à l'heure. On va passer à Bob the Bruiser, qui est l'album, le titre préféré de l'album de l'ami Pedro. Tu sais, Pedro le Crazy, Laser Train, là. Ça, c'est du Mountain Man tout craché, quoi. Je veux dire, c'est
ouais, là, on est plus dans le Mountain Man.
En trois notes, là, tout de suite. Non, mais en plus, au casque, quoi, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment...
Ouais, Bob the Bruiser, ça parle... Pas pareil, ça parle d'un... Je suis fait un film un soir, j'étais tranquillement installé en train de boire un whisky dans le bar d'un ami, au calme, et il y a quelqu'un qui est rentré et qui a été très, 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 très désagréable, et au point de vouloir lui en coller une, quoi. Pourtant, c'est pas mon truc, mais voilà.
D'accord. En plus, quand on te connaît, tu fais 1m62, c'est risible, quoi.
Non, mais ça, c'est encore, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, voilà, c'était quelqu'un d'assez désagréable. Je me suis fait un espèce de film sur la vie de ce gars, quoi. En fait, j'avais l'impression d'avoir un gars qui était chez... Comment on pourrait dire ça? Qui était chez lui.
Comme dit Pedro, tiens, qui vient d'écrire à l'instant, il y a des fois, on a des envies.
Là, ça arrive. Hein.
Voilà. On va poursuivre avec l'avant-dernier titre, qui s'appelle Gonna Waltz.
Gonna Waltz.
Alors, une valse, c'est toujours en trois temps, évidemment. Hein.
Ouais.
Trois temps, quatre accords.
Ouais, ça suffit. Hein.
Et là, il y a l'armo magique de Yann qui se greffe là-dessus, ça fout les poils quand même.
Bah, c'est une chanson ça qui parle, bon, c'est une valse quoi, mais on avait envie de mettre une valse sur cet album. Et ça s'est fait un peu naturellement, et ça parle juste des moments justement où on rentre à la maison, où moi j'ai tendance à... Je dis souvent que mes morceaux sont... La plupart, 80% de mes chansons sont écrites sur mon balcon. Face à mes montagnes, donc j'ai la chance d'habiter dans un endroit assez sympa, et... quand je me pose, je rentre chez moi, je me pose avec un café le matin, le soleil qui se lève sur mes montagnes, et je joue de la guitare sur mon balcon. Donc.
Eh ben écoute, quand je serai mort, je me ferai réincarner en géranium sur le balcon de ma vie.
Le plus tard sera le mieux.
Ouais, ouais. On va terminer avec un autre titre en français qui est très autobiographique, nous as-tu dit, qui s'appelle « Le jour où il a plu dans ma chambre ». Dis-moi, Matt, avant d'enregistrer ça, tu t'es refait l'intégrale de Gainsbourg ?
Ouais, j'aime beaucoup Gainsbourg, j'écoute beaucoup Gainsbourg. Moi, je trouve que c'est un côté un peu...
Bachoum aussi, un peu. Fin...
Oui, Higelin, moi, j'ai l'impression.
Exact, oui, Higelin.
Tu vois l'album No Man's Land d'Higelin, que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu un côté Higelin, un peu à côté Tom Waits aussi, parce que
c'est
des influences que j'aime beaucoup.
Higelin, c'était champagne pour tout le monde, caviar pour les autres. Toi, c'est plutôt Dom Pérignon et Yacht à 3 millions, quand même, on le sait. Hein.
Ouais. Non, c'est pas trop mon truc, Yacht à 3 millions.
Ah, il y a Anne Bettina qui nous suggère Arthur H., le fils de Jacques, oui, pourquoi pas aussi. Ouais.
Arthur H., peut-être. Ouais, un petit peu. Je suis moins connaisseur de d'Arthur H.
Moi aussi. Voilà, en tout cas, c'est avec un titre au piano que se termine cet album Against the World.
On a eu la chance sur cet album d'avoir Marik Ousmane Betou, qui est la chanteuse pianiste du groupe Miss White and the Drunken Piano.
D'accord.
Qui est une femme sublime, qui est sublimement belle et qui chante magnifiquement et qui joue magnifiquement du piano. C'est une amie, elle est en train de préparer un concept terrible, d'ailleurs je peux en parler, je fais un petit clin d'œil, mais elle fait un petit tour du monde avec son... Elle fait un concept piano, qui s'appelle Piano Océan, elle part sur un bateau faire le tour du monde avec un piano sur le pont et faire des concerts un peu aux quatre coins du monde. C'était un plaisir, c'est une amie de longue date et ça c'est plaisir de la voir sur l'album qui joue sur quelques morceaux.
Il y avait d'autres invités, et puis de plus nombreux invités, j'ai envie de dire, sur l'album Hope.
Ouais.
Est-ce que c'est forcément une obligation d'inviter des musiciens dans un album ? Est-ce que c'est juste se faire plaisir le moment d'enregistrement et puis dire tiens, on a eu de la chance, etc. Ou est-ce que c'est véritablement une collaboration artistique à part entière ?
Bah, c'est selon l'envie du moment, j'allais te dire, parce que voilà, là c'était comme ça, on avait envie d'un piano, d'une batterie.
Ouais.
Sur Hope, c'est vrai qu'on s'était un peu plus lâché. Moi, j'avais un long désir depuis quelques années d'écrire des morceaux avec des cordes. Et donc voilà, on avait mis des cordes, on avait mis plus de choses. Il y avait plus de coques qui s'est mis jouer de l'orgamande. Moi, je pense que c'est sur l'envie, puis sur l'esthétique aussi que tu as envie de donner à ton disque.
Mm-hmm.
En tout cas, là, ça s'est fait comme ça. C'est ce qu'on avait envie. On avait envie d'un côté un peu plus brut. C'est vrai qu'on avait, finalement, avec du recul, j'ai l'impression que cet album est très brut.
Oui, mais en même temps, enfin, je trouve qu'il est brut, mais c'est quand même un diamant. Il est quand même ciselé par endroits. Il y a des morceaux qui sont très très purs, très très fins, très très lisses, et puis d'autres où il y a effectivement des aspérités qui n'ont pas été gommées volontairement parce que il est pluriel. Cet album, c'est un album des Mountain Men, mais bien sûr, c'est une somme d'influence comme tout à chacun. Mais j'ai envie de dire.
Ça me fait plaisir de parler avec toi dans une émission de blues parce que je j'ai pas l'impression que finalement au bout du compte on soit vraiment un groupe de blues. Il y a
cette influence
qui est là, qui est au fond de notre musique parce que on est des gros bouffeurs de cette musique, on aime beaucoup le blues et toutes ces choses là et la musique afro-américaine en général. J'allais dire sans aucune prétention, l'étiquette blues, s'il faut mettre une étiquette, ça me paraît un peu réducteur parce que
oui, toujours.
Parce qu'il y a un peu de tout dans notre musique. Il y a de la chanson, il y a du folk, de la pop, du rock. Il y a des mix qui fait que je crois qu'on a une musique un peu, je pourrais dire, singulière.
Et puis, pas dans ce disque-là, mais dans le précédent, il y avait Amy Diwan, notamment. Là, vous étiez en pleine musique malienne. Il n'y a pas de jazz, par contre. On ne retrouve pas de jazz dans Mountain Men. Ou alors, j'ai pas...
Ouais, il y en a, mais il est super caché.
Ouais.
Attention.
Il n'y a pas de titre caché, en tout cas, dans cet album Against the Wind.
Il n'y a pas de titre caché, mais il n'y a pas de jazz. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz. Peut-être que ça aura une influence sur la suite.
Voilà, ça viendra peut-être dans le prochain.
Mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop l'explorer là-dedans.
Mm.
Enfin, explorer, en tout cas, on fait la musique comme elle vient et comme elle vient, on ne se force pas, on fait la musique qu'on a envie de faire à un moment donné.
Mais je crois que ça a toujours été le cas, Matt, depuis quelques années qu'on se connaît. Moi, il y a toujours un adjectif qui me revient quand je pense à toi, c'est le terme spontanéité, quoi. Enfin, un adjectif, un nom. la spontanéité.
Ça me va. Spontanéité, c'est bien.
J'avais une dernière question qui est moins radiophonique, qui concerne la pochette de l'album, avec cette photo sublime où il y a Yann qui tient toute une série de ballons qui sont de couleur, mais qui étaient délibérément en noir et blanc. Et toi qui essaies de courir après ton chapeau qui s'est envolé, Against the Wind, contre le vent, il y a une symbolique particulière à cette photo ?
Le titre en lui-même, c'est une symbolique, Against the Wind, parce que c'est vraiment la sensation que l'on a, nous, de toute façon. J'en parlais avec un autre journaliste il n'y a pas longtemps qui me disait on entend parler de vous partout, on entend parler de Mountain Men, mais en même temps, on ne vous voit pas sur les grands médias. Quoi.
Ouais.
En gros, c'est quand même dans la tête des gens, c'est la vraie réussite, c'est une fois que tu es passé à la télé.
Oui, mais bon, je sais pas, on a parlé de vous dans Télérama déjà, c'est
ouais, c'est, non, mais je veux dire, il y a plein de trucs, là, on est super contents, il y a des télés qui arrivent, il y a des trucs qui
sont
calés, des belles radios, des choses comme ça. Mais on a quand même cette sensation de marcher contre le vent,
ouais.
Parce qu'on n'est pas dans le moule. Nos chansons ne sont pas calibrées pour passer à la radio ou à la télé ou tous ces machins-là.
Ouais.
En tout cas, il n'y a pas. Je respecte complètement la démarche du gars qui me dit moi, je vais faire des chansons qui. Je vais essayer de faire ça, de passer à la télé, de faire un tube. Le mec qui me disait ça dans la chanson Never Give Up, je vais essayer de faire des tubes parce que moi, mon truc, c'est de faire des tubes. Très bien, je respecte ça complètement.
Okay, ouais.
Fais ce que tu veux. Nous, c'est pas notre démarche. La démarche de dire on marche contre le vent, c'est bien ce qu'on ressent parce que. Voilà, la vraie vérité. Nous, on fait à l'ancienne, on travaille avec un super confort grâce à l'éco-production, et voilà, c'est super, on a bien notre vie.
Ouais, il faut saluer toute l'équipe d'éco-prod, et puis notamment Cédric Chazot.
Il y a des gens qui bossent en permanence.
Des gens qui vous suivent depuis de nombreuses années.
Depuis 2009, et qui travaillent en permanence sur Mountain Man, et c'est, voilà. Nous, notre plus grande réussite, c'est que finalement, sans l'aide de ces grands médias et tous ces. Toutes ces campagnes de promo ou ces plans com qui coûtent des fortunes, nous, parce qu'on n'a pas eu ça, on a la chance, c'est plein partout. Tous les concerts que l'on fait, c'est complet tous les soirs.
C'est cool, c'est vraiment cool ça.
Et c'est une vraie récompense parce qu'on est très content de ça. C'est la symbole. On voulait recréer la symbolique de. C'est pas facile, on s'est posé vachement la question, c'est quoi la symbolique de contre le vent. C'est quoi être contre le vent et comment tu mets contre le vent en image?
Et comment est-ce qu'on peut être contre le vent en 2015? Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus compliqué qu'en 1968, par exemple.
Ouais, certainement, mais en tout cas, on essaye, on suit notre chemin, peu importe, on suit notre route, voilà.
Ouais.
Sans faire des concessions à outrance, ou en tout cas essayer de se vendre pour n'importe quoi, parce que c'est pas le cas et c'est pas ce qu'on fait. Donc on voulait mettre cette image. On a la chance de bosser avec un photographe magique qui s'appelle Vincent Lassier, avec qui on travaille depuis 3 ans, qui est un homme superbe, qui est humainement et qui a un talent fou. Et du coup, on s'est enfermé 2 jours en essayant de faire des photos. Enfin, on s'est mis au grand air pendant 2 jours, on était dans le Vercors. Et on avait une petite idée de symboliser ce truc avec le vent. Qui
en tout cas, c'est très très réussi, esthétiquement parlant, que ce soit la pochette et puis l'intérieur, bien sûr, qu'on s'est empressé de découvrir toutes les radios, les petites radios du collectif des Radio Blues notamment. Et on se réjouit de la sortie de ce disque qui va être une réalité physique dans les bacs à partir de lundi 23, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a quelques personnes qui l'ont déjà. Parce
oui,
qu'ils l'ont
j'ai, commandé j'ai cru comprendre ça. Ouais, c'est bien.
Mais à partir de lundi, il sera dans les mains de tout le monde. Donc,
c'est cool.
Voilà.
En vente libre.
Ça va être cool. Je suis content. Je suis très émotionné de laisser partir un disque dans la nature. Ça me touche toujours d'avoir les premières réactions, les souvenirs des gens. Et tout. Voilà.
Matt, ça a été un grand plaisir de t'avoir au téléphone dans ce Sweet Home Chicago. Et en tout cas, bon vent, bien sûr, à Mountain Man, qui va entamer sa 10e année d'existence. Et bon vent à cet album Against the Wind. Et puis à tous les prochains. En tout cas, continuez à nous enchanter avec Matt. Vous êtes des sorciers, vous êtes des magiciens.
Merci à tout le monde pour les questions. C'était cool.
Merci. À très bientôt sur la route du blues et puis des autres musiques sœurs, bien sûr. Salut, Matt.
Merci, des bisous. Ciao, ciao.
Ouais, gros bisous. Salut. Merci, Matt. On poursuit avec ça.
Cet enfant au sourire écorché, rien que ce petit enfant que je n'ai jamais été, procéder autrement par magie, par instinct, comme pour me protéger de mon côté malsain. Finalement, je suis comme les gens de mon monde, que côté pile, le gentil côté face, la bête immonde. Je vis comme si j'avais été enfant. Cet enfant méprisé, maintenant loge dans ma tête. Quelquefois fait la gueule, quelquefois est à la fête. Je ne veux plus juger ses humeurs capricieuses, ni parler au passé de sa rage orgueilleuse. Je vis comme j'avais été enfant. Il s'invite parfois à diriger le navire, à mettre une anarchie dans mes plus profonds désirs. Je le prends par la main, celle qu'il n'a jamais eue, le remet en chemin, puisqu'il a toujours su gagner ma confiance et enfin se marrer et faire un bras d'honneur à tous les préjugés. Il fait partie de moi, de tous mes souvenirs, ici pour le meilleur et là-bas pour le pire. Je vis comme si j'avais été enfant. Je vis comme si j'avais été
Et oui, c'est bien sur le disque tous ces petits bruits qui sont à la fin du titre Comme Si de Mountain Man, l'album Against the Wind, un album à acquérir de toute urgence dès lundi dans vos bacs préférés. On poursuit avec mon titre préféré de la discographie des Mountain Man, extrait de Hope. Je vais parler bien sûr de Move Up to the Door. On se retrouve dans 8 minutes après cet instant de grâce. Les Mountain Man dans la radio.
Listen,
feel not a sound. Silently you will find, look out, up coming down. Why night is start to shine, move on from where you stand. Another will take your place, passion's heart in your hand. Together cut to the chase. When the corridor gets crowded, move up to the door. When it's time to find new ground, move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. From your heart, beating in the perfect time, looking to who you are. Honesty will take you there. All time, how the chaos explodes. Others will follow you. Fear not, we'll lead the road. Never will you fall behind. Move up to the door. When it's time to find a new ground, move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. When the corridor gets crowded, move up to the door. When it's time to find a new ground, move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. Move on.
Voilà, et trois secondes après des Mountain Men, le silence est encore du Mountain Men. C'était extrait de l'album Hope, leur album 2012, et l'album 2015 s'appelle Against the Wind. Merci encore à Matt Guillou, guitariste, chanteur de Mountain Men, pour cette interview. On poursuit avec le disque du mois, et puis ensuite, nouvelle interview avec Fred Chapelier. Fred, qu'on attend dans 5-6 minutes, après un ou deux titres. Juste le temps aussi de vous rappeler qu'il y a des choses à gagner sur le site internet de l'émission, blues.radio666.com. Vous avez gagné deux exemplaires du BCR, la revue numéro 39, les deux exemplaires du CD de Mighty Mo Rogers, Mud and Blood. Ça y est, c'est fait. Et puis, là, qu'est-ce qui reste? Un exemplaire du CD de Lilix and Didi Rock Band, autre chose à faire le soir. Le CD de Greg Nagy qui s'appelle Stranded. L'album de Malted Milk et Tony Green, Milk and Green. Et puis, le CD de Sean Costello, regretté Sean Costello, un album posthume à nouveau qui s'appelle In the Magic Shop. Vous allez sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. JJ Grand Morpho, Light a Candle. Disque du mois.
If you say a prayer, say one for me. Cause I'll say one for you. Hold it for the truth. I won't let go at all cost. I can't play the blame game any longer. Made me feel stronger just to say that I'm weak. One upon another, dark as any other place that I've been. So light a candle for me, be the guide that I need when I'm all alone. So light.
Light a Candle for Me, extrait de All Glory, le tout nouvel album de J.J. Gray and Mofro chez Provogue, disque du mois de février pour Sweet Home Chicago. On poursuit avec ça. Nightwork.
Mesdames et messieurs, Fred Chapelier.
S'il vous plaît.
Night. of the money I made. Any joy that's got its taste, I'll play the blues for you. Night work is what I do. Night work, night work, I'll play the blues for you. Night work is what I do. One more time.
Fred Chapelier en live, le titre Night Work, extrait de Electric Communion, son dernier effort, double album chez Dixie Frog. Salut Fred.
Salut Marco.
Ah, on t'entend super bien, comme si tu étais dans le studio de à côté. Tu vas bien, frère?
Ouais, très bien.
Bon, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone, en interview, et puis pour parler de la musique qui nous intéresse, le blues, mais pas que, parce que l'actualité de Fred Chapelier, les dernières semaines, les derniers mois, ça n'a pas été franchement que blues, et ça a été par contre franchement mirifique, franchement mirobolant. Est-ce que tu as touché le nirvana, dis-moi?
Écoute, je sais pas, tu sais, moi j'ai l'impression d'être toujours, je veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais toucher le nirvana depuis que je monte sur des scènes et que je joue de la guitare devant des gens, que je fais du blues, la musique que j'aime, ouais. Je le touche le nirvana, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement un plaisir et une chance, quoi, de pouvoir faire ça que je suis un privilégié, tu vois, donc pour moi le nirvana, que ça soit dans un club devant 200 personnes ou à Bercy avec les vieilles canailles,
c'est,
je veux dire,
ouais.
C'est le même plaisir, quoi, tu vois?
Alors oui, ouais, on a découvert ça, là, c'était à la fin 2014, une vingtaine de musiciens pour accompagner Jacques Dutronc, que tu connais bien maintenant, Johnny Hallyday, que notre ami Greg Zla, par exemple, connaît bien, Yrol Poupeau aussi, voilà, c'est des gens qu'on retrouvait autour du blues et puis qui se rejoignent autour de ces grandes légendes de la chanson et du rock. Et puis Eddie Mitchell, bien sûr, qu'on croyait à la ramasse, qu'on croyait parti à la retraite et qui continue à fouler les grosses scènes. Question bateau, Fred, ça fait quel effet de se retrouver à bourrer Bercy avec ces gens-là?
Écoute, comment dire, c'est moi, je ne fais pas partie des gens qui sont beaucoup plus impressionnés par 12 000 personnes que par 120 personnes, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des musiciens bon, qui ont beaucoup plus d'appréhension. Moi, ça me fait rien, c'est juste... ça booste dans vraiment dans le sens positif du terme, quoi. Moi ça me donne la patate, je veux dire, monter sur une scène comme celle de Bercy, surtout avec trois légendes comme ça, voilà, c'est juste gratifiant, un plaisir absolu. Puis tous ces mecs, comme tu le disais justement, on retrouve des musiciens de la scène blues,
ouais,
française,
ouais.
Autour d'eux, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ces gens-là adorent le blues.
Ouais.
Que ça soit Mitchell, Dutronc ou Hallyday, on le sait tous, ils adorent le rock'n'roll, le blues. Donc, quoi de plus logique que finalement à faire appel à quelques musiciens de blues pour les entourer, quoi.
Ouais,
mais c'est juste un bonheur absolu de se retrouver sur des scènes comme ça et avec des personnages de cette trempe, quoi. Un réel plaisir.
Ça a été un travail de musicien de recoder, de redécoder tous ces titres, parce qu'il n'y a pas eu de surprise au niveau du répertoire. Hein. C'était les vieux tubes qui ont été servis pendant 2 heures, je crois. Ça fait partie de ton travail de prendre les partitions et puis de tout redécoder, dire voilà, tiens, on va faire tel arrangement, etc. Comment ça s'est passé, la construction finalement du set de toutes ces soirées à Bercy?
Bah, si tu veux, c'était clair entre les trois principaux intéressés que,
ouais,
ils avaient dès le départ envie de ne proposer que des gros tubes.
Bien sûr.
Des chansons qui ont vraiment marqué leur carrière respective, tu vois.
Mmh.
Donc ils ont on s'est retrouvé à jouer tous les morceaux que tout le monde connaît. Après, moi j'étais là pour Jacques, j'étais son allié, si tu veux, et au niveau des arrangements, c'est vers moi qu'on se tournait pour les morceaux de Jacques.
Ouais.
Quand c'était les morceaux d'Hallyday, c'était vers Yarol qu'on se tournait. Quand c'était Mitchell, c'était vers D'Angelo ou Basile Leroux qu'on se retournait, tu vois. Et y a quand même Michel Gaucher qui était là, qui était l'arrangeur principal et le chef d'orchestre, tu vois. Donc le dernier mot revenait à Michel Gaucher. En plus, il a fait un énorme travail d'arrangement cuivre, parce qu'il y avait 13 cuivres. Donc voilà, là où, par exemple, sur des titres de Dutronc, il n'y a jamais vraiment eu de cuivre, il a fallu qu'il écrive des partitions pour tous les cuivres. Mais nous, si tu veux, tous les autres musiciens, aucune partition, aucune grille, rien. C'est des morceaux qu'on connaît tous. C'est des morceaux à... Il n'y a pas 50 accords. C'est pas du jazz, tu vois, c'est très simple. Après, c'est la personnalité des musiciens qui a fait que ça sonnait de cette manière, quoi, tu vois. Mais très simple, quoi. On a répété comme si c'était une répétition. Je veux dire, pour moi, 3-4, on envoie le morceau, on joue et on voit ce qui se passe, quoi, tu vois.
Et comment ça s'est passé, la répartition? Vous étiez plusieurs guitaristes. Je te parle à toi en tant que guitariste, là, cette fois-ci, principalement de ces sessions-là. Comment est-ce que vous êtes partagé le gâteau, finalement?
Ben, si tu veux, encore une fois, moi, j'ai décidé de toutes les parties guitare sur tous les morceaux de Dutronc. Voilà, je disais à Basile, ben voilà, faudrait que tu fasses ça. À Yarol, tu peux faire ça. Et de temps en temps, j'aimais bien aussi donner des parties lead dans les morceaux de Dutronc aux autres, et inversement. C'est pour ça que Yarol voulait que je fasse le premier solo, par exemple, dans toute la musique que j'aime, parce que bah c'est du blues forcément, tu vois. Donc et puis Johnny aussi, ça lui plaisait bien, quoi, parce que
il y a une image
particulièrement.
Ouais, justement, il y a une image de Johnny qui te regarde péter ton solo à ce moment-là. Est-ce que tu as conscience de son regard posé sur toi? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Oui, j'ai conscience, absolument, parce que il faut quand même que je dise que quand tu es sur scène, que ça soit Bercy ou n'importe où, à côté d'Hallyday, il y a une espèce d'aura qui se développe de lui, quoi.
Ouais.
Et t'as juste envie, tu sais que le mec adore le blues et la guitare en particulier, t'as juste envie de lui faire plaisir, quoi.
Ouais.
Et donc moi, je me suis simplement lâché, je veux dire, des grilles de blues, je crois que j'en ai joué pas mal dans ma vie, tu vois. Et là, je me suis juste laissé aller et Hallyday avait l'intelligence et la gentillesse de me remercier quasiment chaque soir. D'entendre autant de notes de blues dans sa musique, et donc ça fait super plaisir, quoi.
Tu penses qu'il en a été privé comme ça pendant plusieurs années de jouer avec des musiciens véritablement de blues?
Oui, absolument.
Ouais.
Parce que il y a eu une longue période. Il m'en a parlé d'ailleurs.
Ah ouais.
Il y a eu une longue période où il avait certes de très beaux morceaux, mais qui étaient quand même beaucoup plus variété que blues.
Ouais.
Et là, son discours, moi, il est venu me voir en me disant, oh, tu sais, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai plus, textuellement, il m'a dit, j'ai plus envie de me faire chier avec des chansons de variétoche, j'ai envie de faire de plus en plus de rock et de blues.
Bah, en 2003, donc, il avait fait un album pure blues à cette époque-là, et je crois que c'est au moment où il avait rencontré Greg, notamment.
Ouais, absolument. Et il s'enfonce de plus en plus là-dedans.
Ouais.
Après, il y a la tu sais, à ce niveau-là, il y a les productions derrière qui mettent un peu les hauts là, tout ça, qui le recadrent un petit peu. Mais lui, moi, il m'a dit, j'ai plus envie de me faire chier à l'âge que j'ai. Je veux faire du blues, du rock. Je veux qu'il y ait de la gratte. Rock and roll, c'est vraiment un mec rock and roll, quoi.
Bah, c'est comme ça qu'il a démarré. Enfin, on a tous souvenir de lui à 15
Bien
ans,
sûr.
Même si on n'était pas né, Fred. On l'a tous vu à la télé dans ses images en noir et blanc, les premiers Scopitone. Il avait 15 ans en 58, c'est lui qui a ramené les albums d'Elvis Presley, etc. Et on le voit avec la guitare, même s'il ne sert pas forcément de sa guitare à chaque morceau, mais ça fait partie de la légende, ça fait partie du look. Jouer avec ces gens-là, Johnny, Eddie Mitchell, qui est un de ses plus grands amis, Jacques Dutronc, qui lui a une carrière un petit peu, une grande carrière aussi bien sûr, mais pas tout à fait aussi populaire que les deux premiers, et surtout pas que Johnny. Le fait de les voir réunis tous les trois comme ça a été l'idée de qui au départ, tu sais ça?
Je pense que c'est une idée d'Eddie Mitchell au départ.
D'accord.
C'est Eddie qui a proposé à Jacques en premier, et après ils se sont dit à Johnny, ça serait le trio infernal, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est Mitchell qui a proposé l'idée.
En tout cas, ils ont fait deux belles choses cette année. Ils ont fait Bercy et puis ils ont fait le dernier film de Lelouch quand même. Hein. Ça a été quelque chose aussi.
Absolument. Ouais.
Fred, on va revenir sur ta carrière solo, parce que la carrière de Fred Chapelier, elle est déjà longue. Elle a été initiée dans les années 80-90 avec des groupes de blues dans ta région, mais ensuite tu as rapidement joué sous ton nom, Fred. Et puis, c'est arrivé jusqu'à cet album qu'on venait d'entendre, Electric Communion, chez Dixie Frog. Déjà depuis plusieurs années chez Dixie Frog, avec d'autres collaborations. J'ai l'impression que, par exemple, quelqu'un comme Billy Price, ça a dû te faire autant plaisir à l'époque où tu as commencé à te reconnecter avec ce garçon qui a été le chanteur de Roy Buchanan, autant plaisir que les gens qu'on vient de citer, Johnny, Eddie, etc.
Ah oui, non, mais c'est certain. Ouais. C'est certain. Tout ça, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, il se trouve que, à l'idée, tous ces mecs-là, ils sont ultra connus, ils sont des superstars en France, mais moi, pour moi, dans mon cœur et dans ma tête, Billy Price est au même niveau, tu vois ce que je veux dire. Peut-être même plus encore, parce que c'est un mec que j'écoute. Tu sais, en 75, je vais passer pour un vieux machin.
Ah mais non, parce qu'en 75, t'étais pas né, Fred.
J'avais une dizaine d'années.
Ouais.
Et il y avait plusieurs disques qui tournaient. Il y avait, c'est marrant parce qu'il y avait Set a Rocker de Eddie Mitchell. Ouais. Parce que son album Rocking Nashville était très rock'n'roll. Il y avait Charlie McCoy à l'harmo. C'est vraiment un super album de Eddie Mitchell. Il y avait donc en 75 cet album-là. Et il y avait Livestock de Roy Buchanan qui tournait en boucle avec mes frangins. On écoutait ça. Et c'était Billy Price, le chanteur. Et j'ai toujours été un grand fan de Billy Price. Alors, tu penses bien que j'ai une grosse fierté d'avoir fait Les Vieilles Canailles, mais je suis encore plus fier d'avoir retrouvé Billy Price, d'avoir pu le rencontrer et qu'on soit devenu aussi proches et aussi amis. Et voilà, qu'on ait échangé aux États-Unis, en France, qu'on ait fait des chansons ensemble. Mmh. Et c'est pas fini.
Fini parce que tu reviens de Pittsburgh, là tu y étais le mois dernier je crois, Fred, ou il y a quelques semaines.
Oui, absolument, on a fait 5 concerts sur Pittsburgh, on en a fait 5 du côté de Washington,
ouais.
Avec Billy qui est en grande forme et qui est prêt à remettre le couvert, qui veut absolument revenir en France, donc on est en train d'imaginer ça, mais je pense que c'est pas impossible qu'il revienne en octobre ou novembre, et on est en train de commencer à écrire quelques chansons. Et on ne sait pas encore ce qu'on en fera, mais on a envie d'écrire des chansons ensemble. Voilà, c'est vraiment une belle aventure qui se poursuit, quoi.
À suivre, en tout cas, Fred, ça c'est super.
Ouais.
Il y a des gens qui écoutent de l'autre côté du poste et même qui interviennent sur le Facebook. Tu sais qu'il y a un Facebook Sweet Home Chicago, Fred.
Oui.
Il y a un ami que tu dois connaître, il s'appelle Pedro le Crazy, qui fait de la radio du côté de Guipry dans l'Ille-et-Vilaine, et qui te demande,
absolument,
qui te dit, je me souviens d'un séjour à Memphis de Fred. Quel souvenir pour lui, pour l'IBC? C'était en 2012, je crois même qu'il y avait eu un petit reportage pour France 2 à ce moment-là sur Memphis.
Ouais, bah écoute, ce qui m'intéressait le plus, moi, dans cette aventure, c'était le fait de rejouer aux États-Unis, parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois.
Ouais.
Mais c'est toujours hyper sympa de jouer aux États-Unis, parce que les Américains, ils sont pas à moitié, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ça leur plaît, ils sont vraiment à fond. Et voilà, j'adore ce public. Je le retrouve un petit peu en France, dans certains endroits. Je le retrouve beaucoup en Allemagne aussi. Ils sont très exubérants. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils dansent. J'adore voir les gens danser.
Ils sont spontanés, les gens là-bas, quoi.
Enfin, ils sont super spontanés. Et puis, ils n'ont pas d'étiquette. Ils s'en foutent que tu sois français, américain, anglais. Si ça le fait, ils sont à fond, quoi.
Ouais.
Tu vois. Et donc, vraiment, le super souvenir, c'est à ce niveau-là. C'est le contact avec le public, c'est la réaction du public. C'est aussi le fait d'être à Memphis, qui est une ville mythique pour la musique,
bien sûr,
pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis, on s'est retrouvé à Sun Studio en pleine nuit, à enregistrer pendant quelques heures. Et voilà, et pour cette IBC, j'avais emmené France 2. Bah, c'est grâce à Dutron, en fait, hein, qui m'a mis en relation avec France 2. Et ils ont été intéressés tout de suite par le sujet du reportage, quoi. Enfin, le sujet de l'IBC, le français qui va représenter la France, machin. Et ils m'ont suivi pendant une semaine et ils en ont fait quand même 35 minutes sur France 2 nationale.
Donc,
c'était une superbe aventure, quoi, dans son ensemble.
Je me souviens, d'ailleurs, la diffusion, elle avait été repoussée à cause des élections présidentielles. C'était en 2012, précisément.
Exactement.
Lieu, je crois, pendant Sweet Home Chicago. J'avais dû regarder ça en différé. Et je crois même me souvenir qu'on s'était parlé au téléphone le jour de la diffusion. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas si je mélange pas un peu tout, c'est pas grave.
Je crois que t'as raison.
Il me semble, ouais, à cette époque-là. Voilà, sur Memphis, bon, bien sûr, rappelons que Sun Studio, c'est un musée le jour et ça continue à être un studio d'enregistrement la nuit. D'ailleurs, à signaler quand même que tous les musiciens français qui sont qualifiés par France Blues, ben, ils vont par la case Sun Studio, il y a eu Blues Power Band, il y a eu Olivier Gauthier, il y a eu Shaky Rips, il y en a eu quelques-uns comme ça que tu as pu croiser d'ailleurs sur place. Je ne sais plus à quel moment, en 2012, il y avait d'autres musiciens français en même temps que toi sur le tremplin.
Oui, il y avait d'autres musiciens français, mais alors, comme je je suis un peu fatigué, j'ai très peu dormi cette nuit. Je sais plus.
On n'a pas répété, c'est ça le direct aussi. Tu sais ce qu'on va faire dans 30 secondes, c'est la fin de la deuxième heure de Sweet Home Chicago. Et puis comme tu ne sais peut-être pas, la semaine prochaine ce sera rediffusé, mais en tout cas pas les deux premières heures. On va écouter quelques secondes de musique et on reprend l'interview juste derrière pour le direct, si tu veux bien, Fred.
Ça marche.
À tout de suite.
À tout de suite.
Voilà, fin de la deuxième heure de Sweet Home Chicago. Et puis, si vous voulez l'entièreté de l'émission, vous écoutez ça en direct, un samedi sur deux, sur le 666.